de pourri.
Des choses intéressantes se sont produites. J'ai reçu un homme qui ne souhaitait pas la paix. Mais maintenant, c'est ce qu'il veut. Et nous allons voir comment cela se passe.
Alors, tiens.
Bonsoir, bon chien.
Oui, il a changé un peu de ton d'ailleurs.
Bon, alors les signaux sont terminés. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Vais fermer les micros. Merci. Donc, pour nous, Pourim commence par la lecture de la Megillah. Et les mitzvot de Pourim, on les trouve dans la Megillah. La Megillah, c'est un texte étrange. Comme tout le monde sait, c'est le dernier texte que les Chachamim ont admis dans ce qu'on appelle le Tanakh, si vous voulez, le canon biblique. C'est un texte qui parle d'une situation qui existe, qui a existé entre les deux temples, c'est-à-dire après la destruction du premier, avant la construction du second. La destruction du premier, Beth Amikdash, elle a eu lieu un moment où un empereur qui, dont la gloire grandissait, s'appelle, tout le monde le connaît, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor.
Il y a un accord global. On dit ces gens-là depuis des journées ils vont être achetés à la poubelle.
Est-ce que vous pouvez
Ça va être
clore,
possible. Oui, ça sera pas un accord
fermer?
de tout. Mais oui, mais pour l'instant, personne n'a bougé. Non, mais j'entends bien. Mais pour l'instant, on ne sait rien non plus du.
Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, pour les intimes, a donc détruit le premier Beth Amikdash et il a exilé les Bnei Israël pour la première fois. Pour la première fois, les Bnei Israël partent en galoute, partent en exil. On ne peut pas s'imaginer ce que ça représente comme bouleversement. À l'époque du Beth Amikdash, le Beth Amikdash jouait un rôle absolument central. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Et il se trouve dans un pays étranger, avec des mœurs étrangères, a priori des ennemis. Puis, les affaires du monde continuent et les Babyloniens sont vaincus à leur tour et il s'instaure une domination perse, mède et perse. On va dire les Perses pour dire plus court. Ce qui va devenir central, c'est en fait une prophétie de Irmiya, d'après laquelle le galout en question, il va durer 70 ans. Et c'est très bien, on sait exactement combien de temps ça va durer, sauf qu'on ne sait pas quand il faut commencer le compte. Il n'y a pas que les Juifs qui ne savent pas, mais qui savent qu'il y a cette idée de 70 ans, les goïms aussi. Et dans la tête des rois des goïms, ça se passe de la manière suivante. Ils se disent, Nabucodonosor pour eux, Nabucodonosor a vaincu le Dieu des Juifs. Il a détruit son temple, il a pris sa place en quelque sorte. Sauf que le Dieu des Juifs, normalement, il va récupérer ses ouailles au bout de 70 ans. Alors, tout le monde fait le compte. Alors, chacun fait son compte parce que 70, c'est calculable. Sinon, quand on ne sait pas quand ça commence, on peut se tromper. Et donc, plusieurs pensent que ça y est, c'est arrivé, il y a toutes sortes de choses. Ils meurent, etc. Arrive un numéro spécial, un bonhomme spécial, Achashverosh. Achashverosh n'est pas du tout un descendant de Nabuchodonosor. Sauf que il a épousé une descendante de Nabuchodonosor. Donc, si on était dans un régime où les femmes pouvaient être reines effectives, c'est sa femme qui serait, enfin, c'est elle, la descendante de Nebuchadnezzar, c'est elle qui serait la reine ou l'empereur de Perse. Alors, comment est-ce que lui, il est arrivé à être roi là-bas? Bon, c'est pas tellement intéressant, mais il a fait de l'argent et il a séduit, ou on ne sait pas très bien. Bon. Sa femme, elle s'appelle Vashti, et elle est par ailleurs, semble-t-il, très belle. Mais c'est une idolâtre, avec des midot pas terribles. Bon. Et lui, là, évidemment, il est sans arrêt en situation de vouloir, de devoir montrer que c'est lui le roi. Alors, comment on fait pour faire le poids face à la descendante de Nabucodonosor? Alors, lui aussi, il fait son compte et il décide que le temps est passé. Et que par conséquent, c'est lui l'héritier de Nabucodonosor, donc c'est lui le nouveau Dieu des Juifs. Puisque, par procuration, en quelque sorte, il a vaincu le Dieu des Juifs. Donc il a pris sa place. Comme ça, dans les systèmes idolâtres et l'Antiquité. On a vaincu le dieu en question, on devient le dieu de. On prend la place du dieu aussi. Et il va faire un super festin. En français, on appelle ça un festin. Dans le langage de la Megillah. On appelle ça un michté. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. En français, on met l'accent sur la fête. Et en hébreu, on met l'accent sur le fait qu'on boit. Donc, ils vont boire pendant 6 mois. Je ne sais pas comment ils tiennent le coup, mais enfin bref, ils doivent tous être assez quand même imbibés. Parce que même s'ils boivent très peu, pendant 6 mois d'affilée, ça doit quand même faire une trace. Et à la fin de cet épisode, de ce festin, il lui vient une idée géniale. Il va montrer à tout le monde la reine, la beauté de la reine. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais en fait, il va demander à la reine de se présenter, mais il faut qu'elle se présente sans ses attributs royaux, c'est-à-dire il faut la présenter, qu'elle se présente nue. Ce n'est pas un problème de tsniout, hein, faut pas confondre. Achashverosh Il a instauré des lois particulières. Il y a une loi en particulier qui est que on ne peut pas aller voir le roi, sauf à avoir été invité. Et quand vous êtes invité, alors, quelque part, vous vous présentez et il vous touche avec son sceptre. Et là, il vous donne la vie. Et si vous y allez seul, alors vous prenez le risque. S'il vous touche avec le sceptre, vous êtes vivant. S'il ne vous touche pas, vous êtes mort immédiatement. Donc ça va être fondamental pour qu'on comprenne ce qui se joue. Qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Il est Dieu. Il donne la vie. D'accord, les rois ont souvent eu les droits de vie et de mort. Mais chez lui, tu es d'abord mort, avant que tout le monde est mort. Sauf s'il leur donne la vie. Il est Mechayim Metim. Et puis, puisqu'il est le Dieu, rien n'a d'autre, rien n'a d'importance que lui. Mais bon, il y a toujours un petit caillou dans la chaussure qui s'appelle Vashti. Elle l'empêche de se sentir vraiment à l'aise. Alors, ce qu'il va faire, c'est que, comme on l'a dit, il va lui demander de se présenter. Et si elle se présente nue, alors tout le monde va voir qu'elle est sa créature. D'accord? Elle n'a plus ses vêtements royaux, c'est la trace de Nebuchadnezzar sur elle. Mais maintenant, elle n'est plus rien. Si elle vient comme ça, elle ne sera plus rien. Complètement rien, sauf qu'elle devient la femme du roi, la reine. Mais pas grâce à Achashverosh. C'est ça l'idée d'Achashverosh. La beauté, c'est un prétexte, c'est bien, mais ce qu'il veut surtout montrer, c'est qu'il est le maître absolu. Le problème, c'est que pour se présenter, Vashti, elle n'est pas dans la meilleure situation parce que elle est frappée d'une forme de lèpre. Par conséquent, si elle se présente sans ses habits, en tout cas, tout le monde verra. Et donc, elle ne veut pas y aller. Et donc, elle dit non. Elle ne viendra pas. Mais Ahasvéros, il a joué très gros. Qu'est-ce que c'est que le nom de la reine? Publiquement, elle montre que c'est elle le patron, et pas lui. Alors, qu'est-ce que vous lui conseillez? Imaginez-vous, vous êtes les conseillères d'Ahasvéros, il vous demande qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez? Quelqu'un a une idée? Bon, c'est pas terrible, hein, comme conseillère. Eh bien, lui, dans sa tête, Rajverov, il sait très bien qu'il n'a qu'une seule solution. C'est de la tuer. Tant qu'elle, c'est le seul moyen de montrer que c'est lui le patron, c'est de la tuer. Seulement, on ne tue pas facilement la descendante de Nebuchadnezzar. Si on la tue, on risque d'avoir toute la noblesse contre soi. Alors, il y a un bonhomme qui représente la noblesse, qui est pour un moment le chef de la noblesse, qui va dire au roi, Ahasvéros, tu peux y aller, je te couvre. Tu peux la tuer. Alors, dans le texte de la Megillah, il n'est pas marqué qu'il l'a tuée. Elle a seulement disparu. Vous voulez? Elle est tellement peu importante qu'elle disparaît. On ne peut même pas parler de sa mort. Ce serait lui donner trop d'importance. C'est tout. Elle a disparu. Disparu comme si elle n'avait jamais existé. Et bien sûr que celui qui lui a donné la permission de la tuer sans que ça fasse une révolution, il a barre sur lui, il a de quoi le faire chanter. Alors ce bonhomme-là, il va par la suite devenir le grand vizir, etc., et auquel Achashverosh va donner tous les pouvoirs. Ahasvéros, c'est quelqu'un d'étrange parce qu'il se veut quasiment, il se veut empereur, mais il délègue complètement. Il donne son sceau au grand vizir. C'est-à-dire que le grand vizir va pouvoir prendre les décisions qu'il veut, en théorie, et les attribuer au roi, les faire passer par pour des décisions du roi. C'est incompréhensible, ouais. Mais c'est la faiblesse de Rajveroche. Dans la Megillah, on nous donne le pédigré de ce bonhomme. Ce bonhomme s'appelle Aman. Et on nous dit qu'il est Agagien. Il est un descendant d'Agag. Ça a l'air d'un petit détail. Il faut bien qu'on dise de qui il est le descendant. C'est bien, il n'est pas un descendant de Nebuchadnezzar, mais il est le descendant de Agag. Quelque part, être descendant de Agag, c'est être d'ascendance royale. Agag, c'est un roi. C'est pas n'importe quel roi. Il n'est pas roi de Agag. N'était pas le roi de n'importe quel royaume. Tout le monde connaît Agag. On a fait connaissance d'Agag avant le règne du roi David. Le premier roi d'Israël, le roi Shaoul, a reçu une mitzvah, il devait en finir avec Amalek. Et donc, il va faire la guerre à Amalek. Et dans les prescriptions qu'il a reçues de Shmuel HaNavi, il y a que faire la guerre à Amalek, ça veut dire détruire tout le souvenir d'Amalek. Donc, s'imaginer qu'Amalek est là, au champ de bataille, et il y a là-bas tout Amalek. Les hommes, les femmes, les enfants, les troupeaux, dirigés par le roi, ce roi qui s'appelle Agag. Et Shaul fait la guerre, il gagne la guerre, et il revient, après avoir gagné la guerre, il revient, et quand il rencontre Shmuel, qui est venu à sa rencontre, il lui dit, j'ai fait ce qu'Hachem m'a demandé. Shmuel, il est atterré. Que Shmuel aimait beaucoup Shaul. Mais Shmuel lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors c'est quoi les bêlements des troupeaux que j'entends? C'est quoi ce roi que tu ramènes prisonnier? Alors il dit, ben c'est clair, c'est le peuple. Il trouvait que c'est vraiment inutile de massacrer tous ces animaux, comme ça, pour rien. On peut en faire des corbanotes. Donc j'ai amené les troupeaux pour en faire des corbanotes pour Hachem. Ah, et le roi, je ne l'ai pas tué sur le champ de bataille parce que on va faire une grande cérémonie, on va le tuer en public. Ce sera un Kiddush Hashem. Le roi Shaoul, il est présenté comme étant un super tzaddik. Il est largement au-dessus de tout le monde, en fait. Et Shaoul ne peut même pas penser qu'il n'a pas fait qu'Hachem lui a demandé. C'est vrai qu'il n'a pas tué tout le monde. Il n'a pas tué tous les troupeaux. Il n'a pas tué le roi sur le champ de bataille. Mais il propose de faire bien mieux. Au lieu de massacrer les animaux, il va en faire des sacrifices. Au lieu de tuer en catimini le roi, il va en faire une exécution publique. C'est un mouvement de Shaoul pour s'approcher d'Hachem. Il va amener des dizaines, des milliers de corbanotes. Finalement, Shmuel, il comprend que Shaoul ne comprend rien du tout. Le Shaoul, il ne comprend pas du tout pourquoi. Pourquoi on lui reproche quoi que ce soit. Alors Shmuel lui dit, est-ce que tu crois vraiment qu'Hachem préfère des corbanotes ou qu'il préfère qu'on obéisse à sa volonté? On a ici un point très 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 important. Donc on a déjà un peu parlé. La Avodah Zara, dont on parle dans la Torah, ce n'est pas du tout ce qu'on pense comme ça. Ce qu'on pense en général, c'est beaucoup, beaucoup trop grossier par rapport à ce que la Torah considère comme Avodah Zara. La Torah, elle n'a pas de mots ou d'expressions pour systématiquement dire de l'idolâtrie, dire l'idolâtrie en fait. Des dieux idolâtres, des faux dieux, l'expression standard, c'est Elohim Acherim, d'autres dieux. Et donc si on réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire d'autres dieux? Quand vous pouvez, vous avez, on a le même problème. La Torah, elle dit dans la Shira, Mi chamocha ba'elim, Hashem. Qui est comme toi, qui est comparable à toi parmi les dieux? Elim, c'est le pluriel de la divinité, c'est des dieux. C'est quoi ce comparatif? Comment on peut oser comparer? D'accord, on est dire qu'il est supérieur. D'accord, il a un point de plus. C'est ça qu'on parle. Ça, c'est presque incompréhensible. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème de la avoda zara, du service qui est étranger, c'est-à-dire c'est un service qui n'est étranger, ça veut dire qu'il n'est pas à sa place. Ça veut dire que on applique un service qui est pour Hachem. Mais ce que les gens veulent, c'est pouvoir définir eux-mêmes la façon dont ils vont servir Hachem. On va le servir, bien sûr. On n'envisage pas de servir autre chose. On n'en est pas là. On va servir Hachem. Mais on va servir Hachem avec tout notre être, avec toute notre imagination, toute notre capacité, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'exprimer dans le service d'Hachem? Exactement de la façon dont j'essaie de penser. Ce qui pour moi est la meilleure façon de servir Hachem. Mais le servir, on dit de tout ton cœur, de tout ton pouvoir, y compris tu es prêt à se sacrifier, mais me sacrifier dans les conditions dans lesquelles j'ai envie de me sacrifier. Je vais servir de la façon dont je vais servir. Très bien pensé, on va servir Hachem, mais on va s'exprimer. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, voilà, j'ai des idées sur la déco du Beth Amikdash. On va prendre les meilleurs décorateurs et puis ils vont décorer. Et puis si la génération d'après, il y a des gens qui pensent autrement, eh bien on redécorera autrement. Chaque génération, chaque moment particulier, on va adapter la façon dont on doit servir parce que ça viendra de l'intériorité de la génération en question. Et la Torah dit non. Hachem dit, je veux être servi de la façon dont j'ai dit que je voulais être servi. Shaoul, il a voulu le meilleur, non? Est-ce qu'on peut critiquer Shaoul? Si ce n'est avec la critique que Shmuel donne, c'est-à-dire, est-ce que tu penses que toi, un homme, un être humain, tu es capable de servir Hachem? Tu es capable de savoir comment Hachem veut être servi, veut être honoré? Ce qui est demandé, c'est ça la grande difficulté, la spécificité du service d'Hachem. La avoda s'appelle avodat Hashem, c'est justement de faire les choses comme elles ont été prescrites. Donc cette situation, c'est un problème pour toutes les générations. C'est un problème là, c'est quelqu'un qui a entré, mais il n'arrive pas à faire entrer. Muriel. Voilà. Donc c'est ça le grand problème. C'est de faire les choses comme Hachem a demandé qu'elles soient faites et pas autrement. Où est-ce qu'on en était dans notre récit? Ah non? Voilà. Lui, il est un descendant d'Agag. Agag, c'est donc le roi d'Amalek. Dire qu'il est un descendant d'Agag, c'est bon, c'est très bien. Bon, ça pose un petit problème auquel je ne sais pas répondre d'ailleurs, qui est que, a priori, Amalek, c'est le fils de. C'est le petit-fils d'Ésaü. Donc, si vous voulez, c'est un sémite. Les Perses ne sont pas des sémites. Comment est-ce que le patron de la noblesse perse peut être un non-persan? Ça veut dire que Amalek arrive à. Amalek, c'est pas simplement une personne, un peuple, etc. C'est une façon de voir le monde. Et donc, c'est une façon de voir le monde qui peut être considérée comme très intéressant par des gens qui ne sont pas obligatoirement des descendants d'Amalek. Donc, visiblement, ce Haman, il a su séduire au point de devenir le patron, quasiment. Donc il va devenir, ce Haman va devenir très très important, et maintenant qu'il a rendu un fier service à Ahasvéros ne peut quasiment rien lui refuser. Donc, comme on a dit, il est grand vizir et il va prendre des décisions étonnantes. Il va imposer que sur son passage, tout le monde se prosterne. Et il ajoute une espèce de dimension qui fera de lui plus que simplement un vizir. Mais probablement un notable aussi dans le cadre de l'idolâtrie en vigueur. Et donc il porte sur lui une petite statuette, enfin une idole. Se prosterner devant un roi, devant un ministre, etc., la Torah nous permet, bien entendu. Le problème, c'est se prosterner devant une idole, ça c'est déjà une autre affaire. Tout le monde ne voyait pas l'idole. Donc tout le monde se prosternait. Et puis, il y a un autre personnage qui va entrer dans ce récit, un récit dont je dis tout de suite que ce récit-là, on va avoir une mitzvah, donc d'en faire ce qu'on appelle une Megillah, de l'écrire, et on va discuter, dans la Gemara, on va discuter des règles de l'écriture de la Megillah, qui vont être les règles de l'écriture du Sefer Torah aussi. Et d'une certaine manière, on va traiter ce texte-là un peu comme le texte du Sefer Torah. C'est-à-dire, on va Dans la Gemara, on va prendre les versets, on va les traiter comme des versets de la Torah. Bon, c'est juste une parenthèse, mais il faut savoir. Il y a un homme qui est un juif, en fait, qui est présenté, qui s'appelle Mordechai, dont on donne aussi l'ascendance, et dont on nous dit qu'il est de la tribu de Binyamin, de la tribu de Shaoul, etc. Il est de la tribu de Binyamin. Mais curieusement, dans ce texte, c'est déjà un texte étonnant, parce que ce Mordechai qu'on appelle, dont on nous dit qu'il est de la tribu de Binyamin, il est présenté comme Ish Yehudi. Yehudi, c'est sûr que ça vient de Yehuda. Donc quand on dit Ish Yehudi, on a tendance à penser que c'est un Judéen, c'est quelqu'un de la tribu de Juda. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on appelle Ish Yehuda, Ish Yehudi, etc., de la tribu de Benjamin? C'est quoi ça? Ça ne va plus. Alors, le texte, ici, le texte que nous avons, c'est un texte qui parle du peuple juif en exil. Dans tout le Tanakh, jamais les Bnei Israël sont appelés judéens. Il s'appelle Bnei Israël, il s'appelle Ephraïm, il s'appelle Menaché, il s'appelle Yosef. Le clan d'Israël est appelé Ephraïm à un moment. Aben Yakir li Ephraïm, Bnei Ephraïm ou Binyamin ou Menaché. Et les Bnei Israël sont aussi appelés Yosef, jamais Yehuda. Ça veut dire en terre d'Israël, jamais les Juifs, je ne vais pas dire les Juifs parce que les Juifs, ça vient aussi de Yehudi, donc de Yehuda. Mais bon, ces gens-là, les Bnei Israël, ils s'appelleront Yehudim seulement en Chutzlaretz. Yehudim, c'est le nom des Juifs en dehors d'Eretz Israël. Donc, quand on dit Ish Yehudi, ça veut dire un juif. Alors, c'est intéressant quand même de le présenter comme un juif de la tribu de Binyamin. On aurait dit il est de la tribu de Binyamin, on aurait bien su que c'était un juif aussi. Mais il appartient à cette entité qui s'appelle juif désormais. D'ailleurs, c'est d'une certaine manière, c'est presque plus les Bnei Israël. Parce qu'ils ne sont plus en terre d'Israël, donc ils ont un autre nom. Ce Mordechai, il fait partie de ce qu'on a appelé Anshei Knesset HaGdola. Vous savez, de Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah Yoshua, etc. Skenim, Nevi'im. Les Nevi'im ont transmis la Torah au Anshei Knesset HaGdola. On connaît dans cet ensemble de ce groupe de personnes, de 120 personnes, dans Pirkei Avot, on ne donne pas du tout des noms de ces gens-là. On donne le nom d'un seul dont on nous dit qu'il est Mishiyaret Knesset HaGdola. Il est un restant. Donc, il était probablement de la dernière génération de Anshei Knesset HaGdola, qui est le fameux Shimon HaTzadik. Mordechai fait partie de ces Anshe Knesset Gdola. C'est un groupe de Talmidei Chachamim, de grands maîtres, dans lesquels il y a, par exemple, des prophètes. Mordechai n'est en rien le patron des Juifs. Hein. C'est un Juif important, mais il n'est pas le patron. C'est pas, il n'a pas une fonction décisive. Okay. On revient. Ah non, non, non. Il est dans les grands, mais pas dans les... Pardon? Non. Peut-être qu'il n'y avait personne qui jouait ce rôle de Gadolador. Personne n'était reconnu en tant que Gadolador. Et Mordechai, à la fin, comme vous savez, à la fin, même tout à la fin, alors qu'il sera grand vizir, il ne sera pas considéré comme le plus grand des Bnei Israël. Les gens auront des, des critiques à faire. On ne peut pas être le grand patron et les juifs et être en même temps grand vizir. Il n'aura pas le temps d'étudier suffisamment. Ezra. Ezra. Et donc, ce Mordechai-là, il va jouer un rôle parce que on revient en arrière. Achashverosh a tué Vashti. Il a probablement un grand harem, mais il n'y a personne dans son harem dont il veuille faire la reine. Alors, il faut chercher une reine. Qu'à cela ne tienne, on mobilise toutes les jeunes filles du royaume. Elles vont être essayées. Le roi va les essayer pour savoir si elles peuvent être les reines. En principe, on mobilisait les jeunes filles. Mais il se passe quelque chose. Celle qui est, d'abord, il y a une femme mariée qui a été raptée pour pour l'amener chez le roi. Donc, absolument, ça ne correspond pas, a priori, à la définition des candidates. Et non seulement elle en fait partie, mais finalement, c'est elle qui est choisie. Elle n'est pas la plus belle. Mais elle est extrêmement gracieuse, ça veut dire tout le monde se sent bien avec elle. Au point que, comme elle ne dit pas qui elle est, bon, tous les gens, les connaisseurs, elle est chez nous, personne, il n'y a que des filles chez nous qui peuvent être aussi gracieuses. Donc elle était à peu près de tout le monde. La pauvre, elle est là, elle est devenue reine de Perse. Bon, alors, c'est super, elle a reçu un festin super. Ça doit lui faire très chaud au cœur. Encore quelques jours de boisson. Alors, bon, elle est reine. Mordechai. Qui est à la fois son oncle et son mari. Mordechai a épousé sa nièce. Vous savez, on peut épouser sa nièce, on ne peut pas épouser sa tante, on peut épouser sa nièce. Elle est à la fois la femme de Mordechai et la femme d'Achashverosh. Elle joue sur les deux tableaux. Comment c'était possible? C'est extrêmement difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Évidemment, quelqu'un comme Mordechai, il va pas assister à une affaire pareille, je veux dire, quoi, sur toutes les jeunes filles de Perse, enfin, peut-être qu'elles ont été examinées. essayé. On n'a rien trouvé de mieux que de piquer la femme d'un juif, quoi. Bien sûr qu'il se demande ce qui se passe. Et donc il est sans arrêt à la porte du palais pour. Il s'enquiert de savoir qu'est-ce qui arrive. Il doit arriver quelque chose. Pendant très longtemps, il n'arrive rien du tout. Mais il se passe quelque chose. Je raconte pas tout, hein. Il y a quelque chose. Vous ayez. Valait la peine d'aller écouter la Megillah. Si vous savez déjà tout, vous allez pu y aller. Donc, il arrive à un accident. Accident, je veux dire. À coup, Aman, il s'aperçoit que. C'est vrai que tout le monde se prosterne devant lui, mais là-bas, il y a un juif là-bas qui ne se prosterne pas. Vous êtes grand vizir, vous avez tous les pouvoirs. Il y a un juif qui ne se prosterne pas alors que vous avez ordonné qu'on se prosterne. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a qu'à le tuer, c'est fini. On n'est pas, il est pas à ça près. Il avait qu'à tuer Mordechai. Mais va savoir pourquoi. C'est parce qu'il est Amalek. Ça lui convient pas. C'est pas assez. Il décide de tuer tout le peuple de Mordechai. À Mordechai. Les hommes, les femmes, les enfants, de tout le royaume des 127 provinces, on va les tuer. Il y a un juif qui ne s'est pas prosterné devant lui. Eh bien, on va en finir avec les juifs. Et donc, il va obtenir la permission du roi, formellement, comme si le roi pouvait lui refuser quelque chose. Et il va envoyer des lettres dans toutes les provinces en disant aux goïms du coin, de tous les coins, voilà, à telle et telle date, vous pourrez tuer les Juifs. Décret royal, signé, scellé par Achashverosh. C'était fait en secret. Mais Mordechai l'a entendu. Et du coup, Mordechai, sa réaction, c'est qu'il prend le deuil. C'est-à-dire, il a l'habitude de, je sais pas, il utilise comme vêtement un sac et de la cendre sur sa tête. Prends le deuil. C'est intéressant, ouvertement, clairement, il prend le deuil. Il y a des serviteurs de la reine, ils viennent et qui lui disent Mordechai, là, ça va pas, hein, il s'est déguisé, là. Qu'elle fait, ça? Elle envoie des vêtements. Ça a l'air un peu cinglé, quoi. Je te dis que elle sait bien qu'il a des vêtements. Jusqu'à présent, il avait des vêtements. Et si maintenant il met des vêtements de deuil, son problème, c'est pas qu'on lui envoie des vêtements. Mais en lui envoie des vêtements, elle lui dit, tu peux pas te présenté comme ça. Quelle que soit la raison, tu peux pas venir devant le palais comme ça. Comme tu viens devant le palais, tu vas te faire arrêter, tu risques ta peau, c'est jamais. Alors, Mordechai comprend qu'elle n'est pas au courant, ce qui est assez logique. Et il lui fait savoir, il y a toujours, évidemment, il y a des émissaires, c'est pas la reine qui vient à la porte du palais. Il lui fait savoir qu'il y a un tel décret. Et puis avant de continuer, je reviens un peu en arrière. Il y a une halakha qui est que un tribunal ne peut pas condamner qui que ce soit si toute la procédure, c'est-à-dire si en particulier l'accusé, etc., et les témoins, etc., ne sont pas entendus dans leur langue par les juges. Donc si un tribunal a besoin d'un traducteur, pour communiquer avec les parties, on ne peut pas juger. Par conséquent, il fallait que, par la suite, par exemple dans le Sanhédrin, il y ait des membres du Sanhédrin qui connaissent entre eux toutes les langues quasiment. C'était déjà le cas dans l'Anshe Knesset HaGdola. Et Mordechai faisait partie des gens qui connaissaient une certaine quantité de langues des différents royaumes. Et il y a eu deux conspirateurs qui avaient l'intention d'assassiner le roi et qui parlaient entre eux une langue rare. Certains que personne ne connaissant leur langue, ils pouvaient parler sans trop faire attention. Il se trouve que Mordechai avait une oreille qui traînait par là-bas, et il a entendu ce qui s'est passé, et il est au courant donc qu'il y a un complot pour assassiner Ahasvéros. Donc, bien entendu, il a un problème. Alors, il sait qu'Ahasvéros, c'est pas un bon roi. Mais d'abord, si on le tue, on ne sait pas qui y aura à la place, est-ce que ce sera mieux ou pas? Donc il est dans le dilemme, est-ce qu'il faut dénoncer ou pas dénoncer? Finalement, il a décidé de dénoncer. Et la façon dont il dénonce, c'est il le fait savoir à Esther. Et Esther le fait savoir au roi. Et alors quand vous lisez la Megillah, vous devez vous souvenir que sur l'ordre de Mordechai, Esther n'a jamais dit qui elle était. Elle n'a jamais dit d'où elle venait. Alors, bien sûr, la première question, c'est comment se fait-il que Ahasvéros ne lui ait pas demandé? Alors, ça fait partie de la folie d'Ahasvéros. Comme Ahasvéros se prend pour le Dieu, ça n'a aucune importance d'où tu viens. N'importe qui n'est que ma créature. C'est lui qui donne la vie. Donc, on se fiche pas son caractère divin sur le fait que d'où tu viens, ça n'a aucune importance. Tu n'es rien d'autre que ma créature. Je suis le Dieu de ce peuple. Je donne la vie. Il la prend. Et donc, Esther est incognito. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit au roi qu'elle a l'information par Mordechai, le juif qui est à la porte du palais. Quand vous lisez ça, vous vous dites, c'est pas maligne, hein? Le roi, il va certainement se demander, mais comment se fait-il que la reine ait un contact avec le juif qui est à la porte du palais? C'est pas normal. Donc, elle risque d'être découverte. Visiblement, elle est protégée, hein. Cette bêtise, elle n'a pas porté à conséquence. Et la bêtise est tellement énorme que c'est devenu une halakha. On a dit que toute personne qui rapporte un enseignement ou quelque chose au nom de quelqu'un d'autre, donc qui ne s'attribue pas le mérite d'apporter l'information, yesh lo chelek le'olam haba. Il a part au monde à venir. Ce qui me paraissait comme une aberration. Et donc c'est très bien, c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce qu'au fond, la clé du déroulement ultérieur, une clé fondamentale du déroulement ultérieur de la Megillah, c'est ça, cette erreur-là. Parce que dans les annales du royaume, on a écrit que le juif Mordechai a donné une information qui a permis de sauver la vie du roi. Il n'a pas été récompensé pour autant, mais c'est dans les annales. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Mordechai, il explique à Esther, il lui dit, faut que tu ailles voir Achashverosh. Et que tu intercèdes et que tu fasses annuler ce décret d'Aman. Il y va de la survie du peuple juif, en fait. Alors, moi je comprends la réponse d'Esther. Et la réponse à la réponse d'Esther que va lui donner Mordechai. D'une certaine manière, on n'est pas obligé de comprendre comme ça. Esther, elle lui dit la chose suivante. Elle lui dit, moi, je suis la reine, mais ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Donc ça veut dire qu'en ce moment, en tout cas, je ne suis pas en odeur de sainteté. Il n'a pas besoin de moi, il n'a pas envie de moi, il a assez d'autres femmes. Et je ne suis pas sûr du tout que si je vais le voir sans y avoir été convié, je ne suis pas sûr du tout qu'il ne me tue pas. Il ne recule pas devant le fait de tuer une reine. Et si ça se passe comme ça, ben j'aurais même pas le temps d'ouvrir la bouche pour essayer de parler, je serais déjà morte. Pour moi, c'est ce que Esther a répondu. Et c'est une réponse de bon sens. Il y a dans cette réponse aucune tentative de ne pas, elle n'a pas dit j'irai pas, elle le met au courant qu'il ne faut pas compter que son intercession, elle va à coup sûr marcher. On n'en sait rien. Et alors Mordechai lui fait une réponse que je n'aime pas du tout. Pour moi, il lui fait un procès d'intention. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Manchet n'est pas d'accord non plus. Mais bon, moi je pense comme ça. Je trouve pas, je comprends pas. Il lui dit, ne t'imagine pas un seul instant que toi toute seule, planquée au palais, tu vas survivre à la mort de tout le peuple. C'est pas comme ça que ça se passera. Et Mordechai lui dit, le salut viendra pour le peuple juif. Il viendra d'ailleurs. Makom, c'est un des noms divins. Bon. Mais on ne peut pas dire Makomacher, ça veut dire. Ça viendra d'ailleurs. Et toi et la maison de ton père, vous serez perdus. Bon, en l'occurrence, la maison de son père, c'est lui. Elle est orpheline de père et de mère. Et toute sa maison familiale, c'est son oncle. Donc, quand il lui dit, tu vois, ta famille, c'est ta maison familiale, je serais perdu, on ne comprend pas très bien de qui il parle. Et je trouve qu'il lui parle très, très durement à cette pauvre femme qui n'en peut rien, elle a. C'est elle qui en prend plein la figure, je veux dire, de devenir la reine de Perse, épouse de cet Ahasvéros, c'est pas quelque chose de très agréable, on va dire autrement. Il me dit trop durement. Elle n'en sait rien parce que même Mordechai, il lui dit pas, c'est sûr que on comprend maintenant pourquoi tu es devenue reine. Il lui dit, peut-être, peut-être que c'est pour ça que tu es devenue reine. Même Mordechai, il ne dit pas certainement. Il n'est pas certain. Nous, on aurait été peut-être rapide, bien sûr, là maintenant on a compris. C'est pour que tu puisses intervenir. Mordechai, il est très prudent. Il ne dit pas, c'est sûr. Il dit peut-être. Miyodea, qui sait? Peut-être, c'est pour cet instant-là que tu es devenue reine. On ne comprend pas pourquoi tu es devenue reine. Mais là, cet instant, qui te donne la possibilité d'intervenir, ça, pour le commun des mortels, c'est comme si c'était écrit noir sur blanc, non? Non, même lui, il dit, Mioder, qui sait? Et donc, elle n'a pas dit autre chose. Elle dit, sache que, pas du tout sûr que je pourrais même parler. Donc, il ne faut pas compter, c'est sûr que j'ai le pouvoir en question. Donc, tu dis que j'ai ce pouvoir, tu fais comme si j'avais ce pouvoir. Je ne l'ai pas, à coup sûr, ce pouvoir. Mais personne ne dit ça. Elle ne savait pas qu'il en était. Mais effectivement, c'est sûr que si on ne sait pas qu'elle est juive, alors elle va, mais c'est quoi de rester toute seule? Hein? Elle sera la seule juive du pays? Je ne crois vraiment que c'est une possibilité de rester juive dans ce cas-là. Ça n'existe pas. Un juif tout seul, c'est pas grand-chose. Bon, vous pensez comme ça, moi je ne pense pas comme ça. Moi je pense que Mordechai est très dur avec. Bon, c'est pas la plupart des gens trouvent très bien. De toute manière, sans qu'elle dise tu as raison, etc., elle décide. Et ici, changement, cette petite princesse, cette jeune femme, devient la reine, celle qui donne les ordres désormais. Elle donne un ordre à Mordechai. Elle lui dit, Knos, rassemble tous les juifs, rassemblement tous les juifs de la capitale, et vous allez jeûner. Nous allons jeûner. Je vous rappelle que c'est Pessah. Ils vont jeûner à Pessah. Donc, elle est en train d'être mevatel Pessah. Ils vont pas manger du chametz puisqu'ils vont jeûner. Mais ils ne feront pas la mitzvah de manger la matzah, etc. Elle dit, moi aussi, je vais jeûner. 3 jours. Et après ces 3 jours, j'irai chez Achashverosh. Et si je meurs, ben je meurs. C'est-à-dire, si je me perds, je suis déjà perdu pour toi, puisque le problème, c'est le suivant. Esther est la femme de Mordechai. Or, elle a des rapports réguliers avec Ahasvéros. Et ces rapports qu'elle a avec Ahasvéros, ce sont des rapports contraints. Elle est violée en quelque sorte. Une femme qui est violée, sauf si le mari est Cohen, elle n'est pas interdite à son mari. Donc jusque-là, elle n'est pas interdite. Maintenant, elle va y aller de son plein gré. Elle n'y va pas par la contrainte de Achashverosh. Du coup, elle est une femme qui a un rapport adultérin. Et du coup, elle est perdue pour son mari. Bon, il y a toutes sortes de halakhot, c'est un goy, c'est. Il y a toutes sortes de choses, et puis après on peut se demander, est-ce que d'y aller pour sauver le peuple juif, est-ce que ça s'appelle y aller volontairement, au point de la rendre interdite à son mari? C'est une question qui existe aussi sur Yaël. Il n'est pas vraiment juif, mais pas loin. Bon, elle aussi, elle a des rapports avec Sisra, volontaire, pour sauver le clan d'Israël. De Yaël, on fait l'éloge. De Yaël, on va dire qu'elle est plus grande, faut savoir dans quelle mesure, mais plus grande que Nachim Shebaol, que les matriarches. Alors, Esther, en tout cas, elle dit, voilà, si je suis perdu, je suis perdu. Et elle va aller chez Ahasvéros pour intercéder. Il faut savoir, cette Megillah qu'on nous lisons en une demi-heure, c'est une histoire qui se déroule sur 10-12 ans. Pas du tout. Ça prend du temps. Hein. Elle va chez Ahasvéros, raccourci, et il la touche avec son sceptre. Donc elle vit. Et il comprend qu'elle est venue lui demander quelque chose. Donc ça veut dire elle est venue pour avoir une relation d'intimité avec lui. Et dans le cadre de cette relation d'intimité, elle va probablement lui demander quelque chose. Alors il lui demande, qu'est-ce que tu veux? Si tu me demandes la moitié de mon royaume, je te le donne. Et Esther, visiblement, elle ne sait pas. Elle ne sait pas si c'est le bon moment de parler ou pas. Et elle décide d'attendre. Alors en fait, c'est pas tout à fait comme ça. C'est quand elle vient chez lui, il lui dit ce que tu veux. Elle lui dit, je voudrais que tu viennes chez moi. J'organise une petite beuverie, une petite copie. Et puis, je voudrais que tu viennes avec Aman. Une idée, avec Aman. Aman, quand il va l'apprendre, il est aux anges. Raconter à tout le monde que il n'y a que lui qui est convié chez la reine, avec le roi et lui. Ahasvéros, lui, il a un problème. Parce que tout le monde aurait le problème. Il se demande, elle est venue pour une relation d'intimité. Pourquoi elle invite Aman pour tenir la chandelle, quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Et Ahasvéros, qui sait qu'il y a un des complots contre lui, il se dit, est-ce qu'elle et Aman sont deux mèches? Est-ce qu'ils veulent m'assassiner? Il passe toute la nuit à s'interroger. Il n'arrive pas à dormir, le pauvre. Alors, il se fait lire les Annales du Royaume, c'est censé être le best-seller de l'époque. On lui lit, le lecteur, c'est un fils d'Aman. Aman, il a déjà noyauté tout le royaume. Et quand il veut lire, il ouvre le rouleau, c'est un rouleau à ce moment-là, il ouvre le rouleau des annales et il tombe, il voit, avant de commencer à lire, il voit qu'il va devoir lire le paragraphe qui parle du sauvetage de la vie du roi par Mordechai. Il est le fils d'Aman. Il sait que Aman, il a décidé de tuer la totalité du peuple de Mordechai. Alors il essaie de changer, mais ça ne marche pas. Le rouleau, il s'ouvre tout le temps dans cet endroit-là. Achashverosh, il s'énerve, il dit, alors tu commences à lire ou quoi? Alors il lit. Et il lit l'histoire. Et le roi demande, est-ce qu'on lui a fait, est-ce qu'il a eu une récompense? Qu'est-ce qu'il a eu comme récompense? On lui dit, aucune récompense. Ah bon? On est au milieu de la nuit. Et il hurle, qui est dans l'antichambre? Qui est dans l'antichambre? Aman. On est au milieu de la nuit. Qu'est-ce que Aman fait dans l'antichambre du roi? Aman, le jour d'avant, il a raconté à tout le monde comme il était formidable, etc. Et tout ça, chose qui gâche complètement le paysage. Et tous les jours, quand il voit ce juif Mordechai qui ne se prosterne pas devant lui, ah, ça lui enlève le goût de vivre. Alors, sa bonne femme, toujours pleine de bonnes idées, lui dit, t'as réglé le problème. Tu dresses une potence de 50 amot, c'est-à-dire 25 mètres, et tu fais pendre le juif Mordechai, et tout ira très bien. Tout le monde verra de loin que tu es le grand patron. Tu as pendu le Mordechai parce qu'il t'a pas. Ah, super, bonne idée. Mais sa femme, elle dit attention. C'est un juif, hein, Mordechai. Ouais. Alors, il faut absolument que tu sois le premier à parler au roi demain matin. Parce que si jamais il y a un juif qui lui parle avant toi, on ne sait jamais, il peut peut-être avoir mis le roi dans une position telle qu'il n'acceptera pas ta proposition de le tuer, Mordechai. Donc il faut que tu sois le premier sur place. C'est pour ça que Haman est au milieu de la nuit, il est dans l'antichambre. Le matin, avant que Ahasvéros ait le temps de faire Neglvasseur, lui, Aman, il est déjà là. Il lui propose de tuer Mordechai. Seulement, voilà, on est au milieu de la nuit. Il demande qui est dans l'antichambre. On lui dit, Aman est dans l'antichambre. Il entre. Alors, Aman entre. Et le roi lui dit, j'ai besoin d'un super conseil. Je veux savoir comment tu penses que le roi doit honorer quelqu'un qu'il a vraiment envie d'honorer, quelqu'un. Bon, alors, ici, il se passe quelque chose qui nous dit que la Megillah a été écrite avec Ruach HaKodesh. Parce que la Megillah, elle dit que Haman, il s'est dit dans sa tête, voyons voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce royaume qui mérite plus que moi d'être honoré? Évidemment pas. Et donc, qu'est-ce qu'il va proposer? Et il propose quelque chose qui n'a de sens que pour lui. Il dit, voilà, il faut prendre un cheval royal, paré, etc. Et puis, il faut y mettre la personne à honorer, avec des habits royaux, Il faut qu'un des personnages les plus importants du royaume tire le cheval du roi au pas dans toute la ville en criant: voilà comment le roi honore les personnes qu'il veut honorer. Pour comprendre, le roi, personne ne le connaît. S'il arrive, il est sur son cheval, il passe probablement au galop. Personne n'a jamais vu la tête du roi. Eh bien, Aman, il dit: voilà, je vais vous fournir la tête du roi. Alors, sur le cheval royal, etc. Alors, les gens, ils ne vont pas entendre tout ce que je vais dire, mais ils vont s'habituer à avoir ma bouille sur le cheval royal. Alors, le problème, c'est que Ahasvéros lui dit: extraordinaire, super conseil. Tu fais exactement tout ce que tu as dit au juif Mordechai qui est à la porte du palais. Je ne vous dis pas l'état dans lequel est le camarade Aman. Ben, il n'était pas beau à voir à ce moment-là. Alors, il y va. Le cheval royal, il faut que vous sachiez, c'est un magnifique destrier, très haut et tout. Mordechai, il sait pas monter un cheval, et sûrement pas sur un cheval royal. Il peut pas, il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait? On est au milieu, voilà. Alors, il n'y a pas d'autre solution. Aman, il se met à genoux et il sert de marchepied. Et Mordechai, il monte sur Aman, et de là, il arrive à chevaucher le cheval royal. Et Aman se balade, et c'est sombre dans la rue, dans la rue. Il passe devant chez lui, à la fenêtre, il y a une de ses filles, qui voit et qui, comme tout le monde dans la famille pense, que la personne honorable, ça ne peut être que son père. Donc son père est sur le cheval, et elle pense qu'elle a reconnu que le type qui tire le cheval, ça doit être Mordechai. Aussitôt, elle balance, je ne sais pas si c'est un pot de chambre ou une poubelle, sur la tête du type qui tire le cheval. Et puis elle s'aperçoit que c'est son père, alors elle se suicide. Bon, alors Aman, il rentre chez lui, bon, il a probablement le temps de prendre une douche, et il est à peine sorti de la douche que arrivent les émissaires qui viennent dire que Aman est invité au deuxième festin. Je ne vais pas parler. Il doit aller au festin du roi, de la reine, invité avec Achashverosh. Achashverosh qui n'a toujours pas résolu son problème, enfin il est là. Et les deux se retrouvent chez Esther et on boit. Et au milieu de la beuverie en question, on ne sait pas combien Esther tenait le vin ou pas, je ne sais pas. On n'en sait rien. Je pense qu'elle ne buvait pas du Coca-Cola à ce moment-là, donc elle devait boire du vin comme tout le monde. Et il lui demande: qu'est-ce que tu veux, moitié du royaume? Elle se lance. Elle dit: si c'était qu'une question d'argent, etc., je ne t'aurais pas dérangé, etc., mais là, il y a un problème, il y a quelqu'un qui veut me tuer, qui veut tuer mon peuple, etc. Qui c'est? C'est qui? Mi ouze ve ezeu? Qu'est-ce qu'elle la route pas de. Alors, Esther, heureusement, elle ne parle pas. Elle répond en montrant du doigt. C'est fondamental qu'elle réponde avec un geste plutôt qu'en parole. Parce qu'Esther, quand on lui demande qui c'est, Elle connaît le décret. Le décret, il est signé qui? Rajveroche. Donc, qui est-ce qu'elle pointe du doigt? Rajveroche. Imaginez. Imaginez la scène. Elle pointe du doigt Rajveroche. Aman, il dit, quoi? Tu veux détruire la reine, etc. On va tuer le roi. Le roi veut. C'est bon. Aman, il tue. Aman, il tue Ahasvéros. Et maintenant, il sait que Esther est juive. Ben voilà. Ben, l'histoire est finie, hein. On est fichu. Maintenant, fichu, il n'y a plus de peuple juif, quoi. Terminé. Mais heureusement, un doigt tendu, ça peut bouger. C'est quelqu'un qui l'a fait bouger. Remarquez que Gabriel, le malheur Gabriel, il a bougé le doigt d'Esther, elle a pointé Aman. Elle, dans sa tête, elle sait qu'elle voulait pointer à Ahasvéros. Elle pointe Aman. Alors, là, Ahasvéros, il comprend que ça, c'est une occasion. Il fait un énorme scandale. Il sort dans son jardin d'hiver. Là, il revient. Et Aman, je ne sais pas ce que Aman espérait, mais en tout cas, il s'est jeté aux pieds de la reine pour demander sa grâce. Il y a des midrashim qui disent qu'il y a des malachim qui n'avaient rien à faire. Ils ont poussé un petit peu Aman pour qu'il tombe sur le lit de la reine. Le roi, il rentre et il dit, alors quoi? Il va violer la reine devant moi? Alors, il y a quelqu'un qui est venu, qui a dit, d'ailleurs, ce Aman-là, qui il a fait dresser une potence 50 amot pour pendre le juif qui a sauvé la vie du roi. Alors, je dis, pendez-le. Et on a pendu Aman. Pas besoin de moi pour ça, non? Imagine, elle désigne Ahasvéros. Aman, il va faire la même chose que ce qu'Ahasvéros a fait. Il va crier au scandale, comment on peut détruire un peuple, etc. Un roi qui fait ça, il ne mérite pas d'être roi. Et on tue le roi. Et qui devient roi à la place du roi? Aman. D'accord, mais maintenant, c'est l'occasion, de même que c'est l'occasion pour Ahasvéros de se débarrasser d'Aman, bon, c'est une très bonne occasion, parce que c'est le type qui s'est chanté, quoi. Et ça aurait été une très bonne occasion pour Aman d'apparaître comme le sauveur. Ensuite, il fait ce qu'il veut avec les décrets. Les décrets sont signés à Ahasvéros. Alors, on peut penser que l'affaire est réglée, quoi. Et non, on est dans un royaume de fous. Aman est mort. Le roi nomme Mordechai grand vizir. Et il lui donne à lui le sceau. Désormais, c'est Mordechai qui signe Achashverosh. Au bout d'un moment, on lui dit, tu sais, il faut annuler le décret qui est signé par Achashverosh parce qu'ils vont tuer les Juifs. Ah, non, on ne peut pas. Il est Dieu, on peut pas, Dieu ne peut pas changer d'avis. Un décret signé Achashverosh, ça ne s'annule pas. Qu'est-ce qu'on fait? L'autre solution, c'est vous écrivez aux Juifs de se tenir prêts et que quand. Au lieu que ce soit les goïms qui tuent les juifs, que les juifs tuent les goïms quand ils viendront essayer de les tuer. Ça, c'est réglé. C'est ce qui s'est passé. Je voudrais juste dire une chose. Les Bnei Israël, dans cette affaire, ils ont tué Amalek et ils ont fait une deuxième grande chose. Ils ont été mekabel la Torah. Donc, Pourim, c'est à la fois Mechiat Amalek et aussi Kabbalat la Torah. Mais c'est aussi quelque chose de nouveau, de tout à fait nouveau, qui est la notion, l'invention, si vous voulez, de Kehila. Knosset HaYehudim rassemble les gens. Il y a une nouveauté. Avant, on se rassemblait au Beth Amikdash. Et maintenant, il s'agit de se rassembler. On fabrique la notion de ce qui va devenir synagogue par le Beth Amidrash par la suite. Ça, c'est fondamental. Bon, il faut réfléchir là-dessus, mais bon, c'est un peu trop tard. Mais il y a la deuxième chose sur laquelle je voudrais que vous réfléchissiez. Hazal ont demandé finalement pourquoi ils sont punis, les Juifs, d'avoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter d'être quasiment morts, quoi? Il y avait un décret de solution finale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors on dit, on répond, est-ce qu'ils ont été nés Misoudat Achashverosh? Parce qu'ils ont profité, ils ont joui du festin d'Achashverosh. Je vous avais dit dans le festin d'Achashverosh, le premier festin, les Juifs étaient invités. Et bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que, alors, ils étaient à des tables. Pas la table la plus proche du roi, mais le roi, il a utilisé les kélim du Beth Amikdash. Parce que c'est moi le Dieu, donc voilà. Je prends la vaisselle du Dieu. Mais surtout, on ne dit pas ça, on dit ils ont joui de ce repas. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le pire des cas, a priori, ce n'était pas comme ça, mais dans le pire des cas, ils ont mangé pas cachère, ils ont bu des vins qui étaient pas cachères. On n'est pas condamné à mort pour ça. Pourquoi on les condamne à mort? Ils ne méritent pas la mort. On leur donne des coups de bâton, mais ou des fouets, on les met à l'amende, quelque chose, mais pas à la mort. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire jouir du festin d'Achashverosh. Le festin d'Achashverosh, il est là, il a lieu, parce que on fête ici le fait que le Dieu des Juifs a abandonné les Juifs. Il les a abandonnés. Et ils ont été pris en charge, à sa manière, par Achashverosh. Il y a un autre Dieu. Les Juifs qui sont à cette table-là, ils sont pendant 6 mois dans cette ambiance. Les Juifs ont été abandonnés par leur Dieu. D'une certaine manière, quand on dit ils ont été nés, ils sont libres là maintenant. On n'a plus d'obligation. Bon, Hachem nous a abandonnés. Donc, il a rompu l'alliance. Donc, on n'est plus obligé à quoi que ce soit. Eux aussi, ils sont dans cette ambiance. Il n'y a plus de Dieu. La preuve, c'est le texte qui décrit ça. Il n'y a pas de mention d'Hachem dans le texte. Ce qui va se passer, C'est que donc, 6 mois, au moins 6 mois, pendant lesquels les Juifs ont vécu comme s'ils n'avaient plus de Dieu. Peut-être pas tous, mais a priori, ils étaient tous au festin. Au moins, il est au festin. Et la reconstruction d'un peuple avec une Torah qu'ils acceptent à ce moment-là, avec un commencement de quelque chose de singulier de la destruction d'Amalek, qui est justement celui qui veut nier Hachem. Si vous voulez, c'est un geste qui tout à coup permet de compenser ce qu'ils avaient fait en allant manger au festin d'Achashverosh. Et donc nous sommes les descendants de cette nouvelle mouture en quelque sorte. C'est toujours la même Torah, si vous voulez, mais c'est une Torah qu'on reconstruit différemment, avec une notion de communauté, de Keïla, de Limoud HaTorah complètement différent, et qui, c'est vraiment très nouveau, parce que ce processus-là, cette histoire-là, elle se passe à la fin des 70 ans. Et la toute fin des 70 ans, c'est quand l'Ebné Israël reçoit la permission de retourner en Eretz Israël et de reconstruire le Beth Amikdash. Seulement ces gens-là, dont beaucoup sont mariés avec des non-juifs, Ezra il est obligé de faire le tri, et puis ils connaissent plus l'hébreu, ils connaissent plus la Torah. Ezra, il va enseigner la Torah en araméen. Ils vont changer d'écriture. Ils vont prendre l'écriture qu'on a aujourd'hui, qu'une écriture un peu ronde, plutôt que cette écriture pointue qui était l'hébreu primitif, en fait. Tout va changer. Quelque chose va commencer très petit seulement et avec une différence, c'est que ça va commencer avec deux centres, mais dans le centre le plus important, au départ, en tout cas, n'est pas en Eretz Israël. Les Juifs qui sont retournés en Eretz Israël, c'est 40 000 personnes. La quasi-totalité des Juifs sont restés en Babel. Et petit à petit, ça s'est développé. Alors, c'est développé aussi. La Mishnah, elle s'est développée en Eretz Israël. Mais après, la Gemara, principalement, de façon plus importante, elle s'est développée, les grandes discussions, qui étaient la Gemara, c'est les discussions, elles ont eu lieu en Babel. Le Yerushalmi, c'est beaucoup moins volumineux que le Bavli, et nous sommes tous des Babyloniens. Halakhiquement, on est des Babyloniens. Les décisions prises par tout le monde depuis sont des décisions qui sont en quasi-totalité, des décisions qui sont construites sur le Talmud Bavli et pas sur l'Yerushalmi. Voilà, c'est des questions sur lesquelles il faut réfléchir, parce que nous, si on regarde si on remonte, ben voilà, c'est ça la Pourim, c'est, si vous voulez, de ce point de vue-là, c'est la naissance d'un peuple juif différent, quoi. Avec deux centres, etc., on va essayer de recentrer avec le Beth Amikdash de Yerushalayim, mais il va jamais, le Beth Amikdash de deuxième ne va jamais être ce qu'était le premier. D'abord, il s'y passe pas du tout les mêmes miracles. Il n'y a pas d'Aaron HaKodesh dans le deuxième Beth Amikdash. Le premier Aaron, il a été englouti Donc, il faut réfléchir à ce que ça représente. Pas, j'ai dû commencer le chiot la semaine dernière pour pouvoir en parler plus abondamment, mais enfin, l'essentiel, c'est de bien boire à Pourim et de et des oreilles d'Aman. Il y a des mitzvot, il faut faire les mitzvot. Hein. Alors, en principe,